Vous êtes avec Radio SBS en français.
La Russie va-t-elle envahir l'Ukraine ? C'est la question que tout le monde se pose. Les États-Unis sont persuadés que oui, et ce, dans les prochains jours. Vladimir Poutine, lui, dément. Pourtant, 150 000 soldats russes sont actuellement stratégiquement positionnés à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Si la guerre était déclarée, c'est toute la structure européenne qui serait fragilisée. C'est la raison pour laquelle, tour à tour, les dirigeants s'entretiennent avec Vladimir Poutine d'un côté, Volodymyr Zelensky de l'autre, mais ceux qu'on entend moins, ce sont pourtant les premiers concernés, les 44 millions d'Ukrainiens, ceux qui sont sur place et qui ne savent pas à quoi s'attendre dans les prochains jours. Alors pour représenter leur voix, nous sommes en ligne avec la chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine, Florence Gillette. Bonjour, vous êtes basée à Kiev. Merci de nous accorder cette interview. On le disait, l'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants, 2,8 millions juste dans la capitale de Kiev. Les yeux du monde entier sont rivés vers l'Ukraine. Florence, quel est le sentiment général sur place ?
Bonjour Marianne. Eh bien, ça va être difficile de dire quel est le sentiment général parce qu'il est très varié selon les gens, selon l'endroit où ils sont aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le bruit de fond énorme dont vous avez parlé, viennent se greffer depuis trois, quatre jours maintenant, des hostilités assez importantes à l'est de l'Ukraine, dans les régions de Donetsk et Lugansk, des deux côtés de la ligne de contact, où sévit un conflit armé depuis 8 ans. Dans cette zone-là, aujourd'hui, le conflit est une réalité. Il est une réalité depuis 8 ans, mais il s'est surtout intensifié ces derniers jours. Et on commence à avoir des conséquences humanitaires assez importantes de ces nouvelles hostilités, y compris en ce qui concerne des dommages sur les infrastructures essentielles, c'est-à-dire les infrastructures telles que l'eau, potentiellement l'électricité et le gaz, et tous les services essentiels à la survie de la population qui dépendent de ces services-là.
Et justement, vous parliez de cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les habitants depuis 8 ans maintenant. On a entendu le président Zelensky dire qu'il n'y avait pas encore lieu vraiment de s'inquiéter. Est-ce que la population est rassurée par les représentants politiques, elle est aidée par les humanitaires, vous venez d'en parler, mais est-ce qu'elle est rassurée ?
C'est difficile à dire, parce que moi je peux surtout parler effectivement de la situation à l'est de l'Ukraine, où je me rends régulièrement. J'étais encore à Donetsk, dans la ville de Donetsk, il y a 10-15 jours. La situation alors était calme, mais on a vu aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui la population n'est pas rassurée à l'est de l'Ukraine, puisque ça fait 4 jours que cette population, comme nos équipes, vivent et dorment au son des bombardements terre-terre, de ce qu'on appelle du shelling, et sentent cette pression permanente. À Kiev, la situation est différente. Aujourd'hui, il y a encore, je dirais, une vie normale dans la rue, mais à l'est, c'est aujourd'hui une réalité qui est une situation qui s'est amplifiée, qui est beaucoup plus grave qu'elle ne l'était il y a quelques semaines, quelques mois, et qui, sans atteindre encore l'intensité du début du conflit en 2014-2015, commence à s'en rapprocher.
Mais justement, vous parlez d'une aggravation des conditions de vie sur place. Et de son côté, Vladimir Poutine, quand on évoque les 150 000 soldats amassés à la frontière, il parle d'un processus normal de militarisation. Il dénonce l'hystérie occidentale qui parle d'une invasion imminente. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah, je ne peux pas commenter sur les propos du président Poutine, ni du président Zelensky, quelque part. Nous, ce qu'on regarde avant tout en tant que Comité international de la Croix-Rouge, c'est vraiment la situation des civils sur le terrain. On ne peut pas dire aujourd'hui exactement ce qui se passe d'un point de vue militaire, on peut juste en voir les conséquences humanitaires sur les gens. Et cette réalité-là.
La réalité, justement, on la voit depuis plusieurs jours en vidéo partout sur la plupart des chaînes de télévision. Ce sont les déplacés, les gens qui fuient. La plupart d'entre eux se rendent parfois en Russie, se réfugier dans de la famille. Vous, qu'est-ce que vous observez sur place ces derniers jours ?
Alors, le CICR peut juste dire ce qu'on voit en partie, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons 400 collègues qui travaillent de part et d'autre de la ligne de contact dans ces deux régions. On a plus de 120 collègues qui sont dans la ville de Donetsk et environ 45 dans la ville de Lugansk. Eux, ce qu'ils voient, c'est déjà qu'effectivement, il y a des hostilités, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue militaire et qui est, je dirais pas permanent, mais quasiment, avec des périodes d'accalmie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui restent, hein, qui sont sur place et qui vivent dans une situation de stress intense, dû à ces hostilités et à ce qui se passe autour.
Et vous, en tant que membre de la Croix-Rouge, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour venir en aide au quotidien à cette population ?
Alors aujourd'hui, on en est vraiment au premier jour. On a des programmes qui durent depuis des années, dont certains malheureusement pour l'instant sont un peu mis en suspens parce que on attend de comprendre ce qui se passe et il faut aussi que la sécurité soit suffisamment bonne. Mais par contre, depuis samedi déjà, on travaille de façon renforcée avec des partenaires qui sont notamment les compagnies en charge de la production et de la distribution de l'eau aux personnes, puisqu'il y a eu des gros dommages très importants en fin de semaine dernière, qui sont en train de mettre en danger l'approvisionnement en eau de plus d'un million de personnes. Et ça, c'est juste, on parle d'une à deux frappes. Il y a d'autres événements qui se passent à d'autres endroits. Donc, on travaille avec ces sociétés, ces compagnies d'eau, pour voir quels sont leurs besoins, comment on peut les aider en vue d'une réparation ou d'un remplacement de machines, d'équipements qui ont été détruits. Et en parallèle de ça, on travaille aussi, on réfléchit à comment les aider pour mettre en place des solutions alternatives, hein, pour pouvoir notamment s'assurer que ces compagnies de l'eau ou des autorités locales peuvent assurer la livraison temporaire en urgence d'eau par camion aux populations. Donc ça, c'est un des exemples qu'on peut donner sur ce qu'on est en train de faire. On est aussi en contact avec les services de santé, avec les hôpitaux, avec les centres de santé primaires, qu'on accompagne depuis très longtemps en raison du conflit, mais aussi sur la prise en charge de toute une série de pathologies et qu'on a accompagné encore de façon plus forte depuis le début de la crise du Covid-19. Et on est en contact avec eux aujourd'hui pour comprendre quels sont les besoins, comment mieux les aider à se préparer en cas d'augmentation forte du nombre de blessés, que nous n'avons pas encore vu, heureusement, et que nous espérons que nous ne verrons pas. Donc pour l'instant, il y a encore peu de blessés et de morts, mais malheureusement, l'intensité des hostilités étant telle qu'il y a un risque que ça commence à arriver. Donc tout ça, on est en contact pour s'assurer qu'ils ont ce qu'il faut, sachant que nous avons toujours, depuis des années, travaillé avec certains hôpitaux pour s'assurer qu'ils aient toujours un stock d'urgence pour prendre en charge les blessés de guerre et les cas traumatiques.
C'était ma prochaine question, une question qui paraît bien irréelle à poser. Êtes-vous prêt en cas d'invasion imminente ?
Je pense que personne n'est prêt face à des scénarios qui aujourd'hui vont dans tous les sens. On ne sait pas quels sont les scénarios à venir, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous avons travaillé depuis des semaines sur notre capacité à être agile, réactif, et aussi de par nous-mêmes en tant qu'institution, mais aussi avec nos partenaires tels que la Croix-Rouge ukrainienne, les autres membres du mouvement, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et aussi tous nos contacts. Je parlais des compagnies d'eau, les services médicaux, les services d'urgence. Et toute une autre série d'acteurs locaux, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en Ukraine et qu'il y a beaucoup de capacités locales, à la fois d'un point de vue, je dirais, technique de réponse. Il y a des capacités financières, on est dans un État qui fonctionne, qui existe. Et donc, plus que de se substituer, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de renforcer les mécanismes de résilience des communautés, de la société civile là où elle est en place et des différentes administrations et services à la population.
Et est-ce que vous avez des contacts également avec les gouvernements, l'OTAN ? Comment la Croix-Rouge est-elle soutenue si l'Ukraine était plongée dans une guerre ?
Alors nous travaillons ici depuis plus de 8 ans. On a travaillé ici dans le passé, mais on est surtout très présents en fait depuis 2014. On est présent des deux côtés de la ligne de contact, donc on est présent à Donetsk, à Lugansk, à Kiev, mais aussi à Mariupol, Slaviansk et Severodonetsk. Et on a eu aussi pendant longtemps une présence à Odessa qui aujourd'hui est réduite, mais encore là. Donc on est connecté, je dirais, au niveau des personnes, des autorités locales dans tous ces endroits-là. Et des interlocuteurs, mais on travaille aussi depuis très longtemps avec l'armée ukrainienne pour s'assurer qu'ils investissent dans leur programme de diffusion et de mise en œuvre du droit international humanitaire. Et puis, parce qu'on travaille dans des zones qui sont déjà affectées par un conflit, on a des processus de dialogue avec eux. Et je dirais qu'on a aussi des contacts avec une bonne partie des personnes qui prennent des décisions sur l'Ukraine, sur la situation à Donetsk et Lugansk, et aussi avec toute une série d'États et l'Union européenne. Donc on a un réseau qui existe depuis longtemps en raison du fait qu'il y a un conflit qui est là, qui existe depuis 8 ans et qu'on on y joue malheureusement, parce que ça veut dire qu'il y a un conflit, un rôle important depuis 8 ans.
Et je rebondis à une chose que vous avez dit un petit peu plus tôt dans l'interview. On comprend bien que le peuple ukrainien fait preuve d'une très grande résilience, sans savoir ce qui va se passer en attendant invasion ou non. Est-ce qu'il y a une sorte de vie normale en Ukraine?
Comme je vous disais, moi j'habite à Kiev, hein, aujourd'hui je suis à Kiev. La vie est certes, on sent qu'il s'est passé des choses, on sent aussi que certaines ambassades sont relocalisées, parce qu'il y a aussi des entreprises internationales qui ont sans doute relocalisé, mais aujourd'hui, la vie à Kiev, elle est normale, c'est-à-dire que les supermarchés sont ouverts, les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, les salles de spectacle sont ouvertes. Alors dans certains de ces endroits, j'essaye de ne pas trop aller à cause de la Covid-19, hein, on va être clair. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention parce qu'on a un pic en termes pandémiques en ce moment. J'étais à Donetsk il y a 15 jours et pareil, je suis allée faire des courses, j'ai pu manger dans des restaurants. Donc, il y a une vie normale, mais une vie normale qui est affectée par ce conflit d'il y a 8 ans et par la situation tendue à l'heure actuelle. Mais il y a des gens, il y a des enfants qui jouent dans les parcs. Donc c'est une situation un peu surprenante où en fait on voit cette résilience, dont, comme vous le disiez si bien, mais où on sent aussi une pression importante sur la santé mentale, un niveau de stress quand même qui est là chez tout le monde, et cette incertitude de ce qui va se passer demain. Il ne faut pas oublier aussi que les régions de Donetsk et Lugansk ne sont effectivement qu'une partie, une petite partie du territoire ukrainien, mais qu'il y a beaucoup de gens à travers tout le territoire ukrainien qui viennent de ces zones-là et qui ont bougé pour différentes raisons, pas seulement à cause du conflit, qui ont bougé parce qu'il y avait des opportunités de travail, d'études à travers le pays. Donc il y a des gens partout, on a beaucoup de collègues à Kiev qui ont de la famille qui sont dans les régions de Donetsk et Lugansk, de part et d'autre de la ligne de contact par exemple, et pour qui le conflit qui dure depuis 8 ans était déjà difficile, mais la situation actuelle devient encore plus difficile.
Et Florence, le dernier rebondissement en date à l'heure où nous réalisons cette interview, c'est que à l'initiative du président français Emmanuel Macron, Joe Biden, président américain, et Vladimir Poutine, président russe, donc, ont acté sur le papier être d'accord pour se rencontrer lors d'un sommet. Quelques instants plus tard, le Kremlin a fait marche arrière en disant qu'il était trop prématuré et préfère plutôt que ce soit les ministres des Affaires étrangères qui continuent le dialogue dans un premier temps. Est-ce que le fait qu'il y ait encore cette diplomatie vous donne un espoir?
Vous savez, en tant que chef de délégation du CICR, donc d'une organisation qui travaille pour prévenir et répondre, hein, aux conséquences humanitaires des conflits, on ne peut souhaiter qu'une chose, c'est-à-dire qu'il y ait moins de conséquences humanitaires. Donc pour ça, effectivement, tant qu'il y a conflit, il faut qu'il y ait un meilleur respect du droit international humanitaire, mais la meilleure solution reste la résolution diplomatique et qui ne passe que par le dialogue diplomatique. Et aujourd'hui, on espère que tant que ces canaux sont ouverts, il y a effectivement encore une chance qu'on puisse limiter les conséquences humanitaires pour la population. Mais il ne faut pas oublier que toute la tension qui a lieu depuis des semaines, voire des mois, a déjà eu des conséquences, alors peut-être pas humanitaires en tant que telles, mais des conséquences économiques et en termes de santé mentale sur l'ensemble de la population ukrainienne, et que même si on a une résolution, il va falloir du temps pour pouvoir adresser ça pour l'ensemble des Ukrainiens.
Florent Gillet, je rappelle que vous êtes la chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Kiev, en Ukraine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir accordé du temps en cette situation très particulière. Et surtout, merci pour ce que vous faites en Ukraine au quotidien. On vous souhaite bon courage pour la suite.
Merci beaucoup, Marianne. Et puis, en espérant que la prochaine fois qu'on se parle, ce sera dans un meilleur contexte.
On l'espère. Au revoir.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.